Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, une bactérie dans les biberons. Le groupe Lactalis retire en urgence des millions de boîtes de lait en poudre pour nourrissons. 25 bébés sont tombés malades. Les autorités sanitaires n'ont pas voulu prendre de risques. Une ascension politique par la face droite. Laurent Wauquiez prend le pouvoir chez les Républicains, 56% dès le premier tour. Mais le profil du nouveau patron en laisse quelques-uns sceptiques. On verra ce qu'en pense. Tiens, votre invité, Nicolas, à 8h20.
C'est un sage, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. Jadis, il fut le fondateur de l'UMP. Vos questions dès maintenant sur la droite et son avenir au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, la quête corse. Les nationalistes, grands vainqueurs du scrutin hier, en appellent au gouvernement. Ils veulent négocier l'autonomie d'ici 10 ans. Mais qui va garder les portables? Question posée à l'école, alors que le ministre de l'Éducation promet de les bouter hors du primaire et des collèges dès la rentrée prochaine. La tempête Anna qui secoue la France, 50 000 foyers privés de courant ce matin. À l'étranger, le procès du terroriste qui avait tué 39 personnes la nuit du réveillon à Istanbul, il s'ouvre aujourd'hui. Et puis la crise qui couve à France Télévisions, semaine sociale tendue dans la télé publique. Des millions de boîtes retirées de la vente, une usine à l'arrêt pour désinfection et des parents qui s'inquiètent pour leur bébé. La crise sanitaire s'étend chez Lactalis, le géant français du lait, depuis que des salmonelles ont été retrouvées dans certaines boîtes de lait pour bébé. La semaine dernière, ce sont 12 références qui avaient dû être retirées de la vente en urgence. Désormais, 600 autres sont interdites à la consommation, vendues sous les marques Carrefour, Picot, Milumel ou Célia Nutrition. Cela représente 7000 tonnes de lait en poudre. L'usine de Cran, en Mayenne, est à l'arrêt, le temps de tout nettoyer et de comprendre ce qui s'est passé. Germain Treille.
12 lots retirés, c'était le 2 décembre dernier. Une vingtaine de cas de salmonellose repérés chez des nourrissons de moins de 6 mois. 5 nouveaux cas la semaine dernière. L'enquête des autorités sanitaires indique que la gestion du risque de contamination n'est pas maîtrisée sur le site Lactalis à Cran. Loïc Tanguy, un des responsables de la Direction Générale de la Répression des Fraudes.
Notre enquête a montré que les mesures qui avaient été prises par Lactalis étaient insuffisantes. On a mené des contrôles de contamination autour des chaînes de fabrication. On a mis en évidence la présence de salmonelle dans l'installation à proximité des chaînes de fabrication.
À Cran, des mesures doivent être prises et vite, souligne le ministère de la Santé. Lactalis a donc mis à l'arrêt son usine, explique le porte-parole du groupe, Michel Nallet, et plus particulièrement les tours de séchage où les bactéries ont été détectées.
L'ensemble des deux tours, même celle qui n'est pas incriminée, sont arrêtées. Nous allons procéder à des contrôles complémentaires, un nettoyage complet et très renforcé.
Les parents sont invités à ne plus utiliser les produits concernés par ce nouveau retrait. Soyez vigilants, c'est ce que recommande ce pharmacien mayennais.
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de danger, mais il faut être prudent, quoi. Il faut bien suivre les recommandations, notamment faire bouillir le lait pendant au moins 2 minutes et après le donner, en attendant de prendre un lait
de substitution,
de remplacement. Oui.
En cas de doute ou si vous remarquez des symptômes chez votre bébé, diarrhée, fièvre, prenez rapidement contact avec votre médecin.
Le gouvernement a ouvert un numéro vert si vous cherchez des informations, le 0800 636 636. Il n'ouvre qu'à partir de 9h et jusqu'à 20h.
Le score est clair et net, la victoire aussi, mais le plus dur commence pour Laurent Wauquiez.
Comme prévu, son élection à la tête des Républicains n'a été qu'une formalité. Près de 75% des voix dès le premier tour. Il fait mieux que Nicolas Sarkozy il y a 3 ans. Ses concurrents n'ont pas fait le poids. 16% pour Florence Portelli et moins de 10% pour le jupéiste Maël de Calan, à qui il a aussitôt tendu la main, comme à tous ses adversaires, d'ailleurs en interne. Ceux qu'il trouve trop clivants, trop à droite, trop identitaires. Le patron, c'est lui, désormais, et c'est un Laurent Wauquiez sans cravate qui s'est adressé au peuple de droite.
Le vieux paysage politique s'est effondré. Eh bien, tant mieux. Tant mieux parce que nous allons tout réinventer. Tant mieux parce que je suis convaincu que les valeurs de la droite restent les valeurs d'une majorité de Français. Oui, j'en suis intimement convaincu, la France a besoin de la droite pour dire qu'on ne peut continuer à tout demander aux classes moyennes sans rien leur donner. Oui, je suis convaincu que la France a besoin de la droite, parce qu'aujourd'hui le président de la République est passif sur les questions de délinquance, parce qu'il est complaisant sur le communautarisme, parce qu'il manque de fermeté face à l'intégrisme islamique. Nous allons écrire une renaissance, et c'est la renaissance de notre nation que nous proposerons aux Français.
La participation, elle, a été moins mauvaise qu'annoncée, autour de 42%, soit environ 100 000 votants. Un triomphe à Bastia et des questions à Paris. Revoilà donc le dossier corse qui s'invite sur la table de l'Élysée. Après le plébiscite des nationalistes hier lors du second tour de l'élection territoriale, la coalition emmenée par Gilles Simeoni décroche 56% des voix. Elle aura la majorité absolue dans la future assemblée qui réunira départements et régions. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Dès hier soir, le téléphone a sonné entre la Corse et le continent.
Et pas d'un père cette fois-ci. En 2015, personne, ni Manuel Valls, ni François Hollande, n'avait appelé Gilles Simeoni pour le féliciter. Hier soir, Édouard Philippe a donc téléphoné au nouveau président de la collectivité unique vers 22h pour lui adresser des félicitations républicaines et l'inviter à Matignon dès l'installation de cette nouvelle collectivité, donc pas avant le 2 janvier, date de la première session à Ajaccio de l'Assemblée de Corse.
Ces futures discussions, Cyril, les indépendantistes les abordent en position de force. Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Alors, la priorité côté Corse, c'est d'abord une autonomie renforcée avec notamment une volonté de pouvoir légiférer en dehors des sujets régaliens. Il y a ensuite la co-officialité de la langue corse. Les nationalistes veulent que le corse soit utilisé dans tous les domaines de la vie publique, économique et sociale. Une demande qui a peu de chances d'aboutir car elle nécessite un changement de constitution. Autre dossier inconstitutionnel, la reconnaissance d'un statut de résident. Pour combattre la spéculation immobilière, Gilles Simeoni et ses amis veulent réserver les achats immobiliers aux personnes justifiant de 5 années de résidence sur l'île. Et il y a enfin le dossier explosif, celui des prisonniers dits politiques. Si leur rapprochement a été évoqué, Gilles Simeoni en veut plus. Il réclame l'amnistie. Ça concerne une 20aine de détenus, des membres du FLNC et surtout ceux du commando qui a assassiné le préfet Erignac, à commencer par Yvan Colonna. Autant dire une demande aujourd'hui impossible à satisfaire.
Cyril Graziani en direct de Bastia avec Arthur Gerbeau. Merci à tous les deux.
Et merci de laisser vos téléphones portables à l'entrée. C'est une phrase qu'on n'a pas fini d'entendre, Marc, à l'école.
Il était déjà banni des salles de classe rangées au fond du cartable ou plus discrètement dans la poche. Le portable sera bientôt interdit de récréation et même de cantine. Plus question de l'apporter à l'école ni au collège. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, souhaite mettre en place cette mesure dès la prochaine rentrée en septembre. Mais ça risque de coincer, prévient déjà le principal syndicat des chefs d'établissement, son secrétaire général adjoint, Michel Richard.
Ce qui serait le plus simple, ça serait qu'il y ait un projet de loi voté dans des délais extrêmement brefs par les parlementaires qui permettrait de dire, voilà, donc désormais la loi interdit soit l'usage, soit la détention, ça il faudra le déterminer, des téléphones dans les collèges et dans les écoles, et donc bien évidemment dans un état de droit, il appartient aux fonctionnaires que nous sommes de faire appliquer et respecter la loi. Il faudra donc avoir des dispositions qui soit interdisent la possession, donc responsabilise les familles en leur disant vous interdisez à vos enfants de venir à l'école et au collège avec un téléphone, soit des casiers mis dans les établissements pour que les élèves puissent les déposer le matin et les reprendre le soir. C'est possible, sauf que ça a un coût et que ce coût ne sera pas pris en charge par l'État mais sera pris en charge par les collectivités territoriales et plus particulièrement concernant les collèges par les conseils départementaux. Un collège c'est de 400 à 850 élèves, c'est de 400 à 850 casiers parce qu'il faut qu'ils soient individuels pour qu'il n'y ait pas de vol qui entraîne des contentieux massifs.
Michel Richard du syndicat des personnels de direction de l'éducation avec Philippe Randet. Le carnet de chèques pour sauver la planète 2 ans après l'accord de Paris sur le climat. La France accueille demain un nouveau sommet mondial. Une 50aine de dirigeants font le déplacement et c'est d'argent qu'il sera question. Où trouver les 100 milliards promis par les pays riches et comment mieux orienter l'argent de la finance pour qu'elle cesse d'irriguer les projets les plus controversés. En France, BNP Paribas vient ainsi de renoncer à un investissement dans le gaz de schiste. Bien, mais peut encore mieux faire, lui répondent les ONG Sandy Dauphin.
La BNP était impliquée dans un projet de terminal d'exportation de gaz de schiste dans le golfe du Texas. Désormais, la banque renonce à investir dans ce type de projet, des hydrocarbures non conventionnels. Laurence Pézès, responsable environnement à la BNP Paribas.
Nous ne finançons plus aucun projet de production et d'exploration de sable bitumineux et de gaz de schiste. Nous ne finançons plus non plus les grands pipelines qui les transportent ou les terminaux d'exportation qui permettent d'acheminer du gaz de schiste, par exemple américain, à l'autre bout de la planète.
La BNP promet 15 milliards pour les renouvelables, elle sort du charbon, mais pas question de renoncer au pétrole.
Il n'est pas question pour nous de dire qu'on ne va plus financer du tout les énergies fossiles, parce qu'on est dans une transition. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner ce process.
Un premier pas, mais insuffisant, répond la 20aine d'ONG françaises regroupées dans une coalition pour demander l'arrêt complet des financements des énergies fossiles. Lucie Dufour du réseau Action Climat.
Cette campagne Pas un euro de plus, elle interpelle l'ensemble des acteurs économiques, les acteurs privés, les États, les banques, pour leur dire stop, arrêtons de financer ces énergies qui vont contribuer à alimenter les changements climatiques.
La combustion d'énergies fossiles est responsable des 3/4 des émissions de CO2.
Le climat est tous les dossiers qui fâchent, le nucléaire, Notre-Dame-des-Landes, il en sera question ce soir au téléphone sonne dont l'invité est Nicolas Hulot. Vos questions au ministre de la Transition écologique à partir de 10h. 19h20.
Vent violent, neige, verglas, c'est ce qui vous attend aujourd'hui.
Elle s'appelle Anna, elle va vous décoiffer. La tempête hivernale est arrivée par l'ouest. Elle se dirige désormais vers le nord-est avec des vents parfois violents jusqu'à 130 km/h sur les Charentes. 40 000 foyers sont privés d'électricité en Vendée, 10 000 autres dans le Maine-et-Loire et 20 000 dans le nord et le Pas-de-Calais où la neige est désormais attendue aujourd'hui, ainsi qu'en Normandie et sur les Alpes. Les prévisions complètes, c'est à la fin de ce journal. Il y avait déjà eu une panne, puis un bug informatique ce matin. C'est l'incendie d'une armoire électrique qui provoque une paralysie partielle du trafic à la gare Montparnasse à Paris. Où vous vous trouvez ce matin, Jérôme Jadot? Quelle est la situation?
Eh bien écoutez, les trains partent au compte-gouttes avec des retards, mais ce qui est surtout compliqué, c'est de savoir ce qui se passe puisque l'électricité n'a pas totalement été réinstallée dans la gare. Les escalators ne fonctionnent pas, il y a encore des endroits de la gare qui sont dans le noir, notamment certains quais. Et puis il n'est pas possible non plus d'acheter des billets au bord ni au guichet, et surtout les tableaux d'affichage donc sont tous et tout noirs. On ne peut pas savoir quels sont les trains au départ et à l'arrivée. Du coup, ce sont les agents de la SNCF en gilet rouge qui tentent d'orienter comme ils peuvent les voyageurs en griffonnant des horaires sur des bouts de papier, en tentant de rassembler les informations qu'ils glanent à droite à gauche. Ça part donc au compte-gouttes avec des retards et le réseau transilien est plus touché que le reste, nous disait tout à l'heure un agent. C'est donc un incendie sur une armoire électrique qui a provoqué cette panne aujourd'hui, la deuxième en 8 jours après celle de dimanche dernier qui avait duré plusieurs heures, la troisième en 5 mois après celle qui avait duré plusieurs jours à la fin du mois de juillet.
Merci Jérôme Jadot en direct de la gare Montparnasse à Paris. Demain c'est une grève à la RATP qui attend les usagers de la ligne B et C du RER. Comptez un train sur deux aux heures de pointe en raison d'une grève des conducteurs contre les tensions chroniques dans l'organisation du travail. Pas de perturbation à prévoir dans le métro. À l'étranger, le coup de force du président vénézuélien Nicolas Maduro. Il annonce que les partis d'opposition qui ont boycotté les élections municipales hier n'auront pas le droit de concourir à la présidentielle l'an prochain, scrutin durant lequel il vise un second mandat. Il avait tué 39 personnes dans une discothèque d'Istanbul le 1er janvier dernier. Le procès d'un terroriste ouzbek qui avait ensanglanté la dernière nuit du réveillon en Turquie s'ouvre aujourd'hui. Il ne sera pas seul devant ses juges. 56 complices présumés sont à ses côtés. Parmi eux, 2 Français, dont l'un soupçonné d'avoir été l'un des organisateurs de cette attaque. À Istanbul, Anne Andlauer.
L'un des 2 Français mis en cause dans l'attentat du Nouvel An à Istanbul est un homme d'une 20aine d'années emprisonné un peu plus d'un mois après la fusillade. L'acte d'accusation le présente comme l'un des planificateurs de l'attaque, sans beaucoup plus de détails sur son rôle présumé. Le procureur qui avait réclamé sa mise en détention début février avait notamment affirmé que le contrat de location d'un des appartements utilisés par le tueur avait été retrouvé dans le téléphone du Français. Toujours selon ce procureur, le suspect, qui possède aussi la nationalité turque, avait pour mission d'assister l'émir de Daesh, chargé de fournir des caches aux membres du réseau djihadiste. Le parquet réclame contre lui, entre autres, 39 peines incompressibles de prison à perpétuité, une pour chaque victime décédée dans la fusillade. Quant à l'autre ressortissant français, il s'agit d'une femme franco-sénégalaise. Mariée religieusement au terroriste, selon l'accusation, elle avait été arrêtée en même temps que lui dans un appartement de la banlieue ouest d'Istanbul. Le procureur l'accuse d'avoir eu l'intention de rejoindre les rangs de Daesh en Syrie. Elle risque la prison à vie, comme chacun des 57 accusés. Un employeur Istanbul, France Inter.
Des milliers de pompiers mobilisés. La Californie n'en a toujours pas fini avec les incendies, même si plusieurs feux ont été éteints ces dernières heures. Les flammes menacent toujours les abords de Los Angeles et la ville de Santa Barbara. 15 000 bâtiments sont menacés au total.
8h14, Marc. Parfum de crise à France Télévisions.
Noir, c'est noir pour la patronne du groupe, Delphine Ernotte. Elle affronte aujourd'hui une assemblée générale de ses rédactions avant une possible motion de défiance demain et une journée de grève après-demain contre les coupes annoncées dans la télé publique. Alexandra Hakoun.
Elles seront toutes là cet après-midi, toutes les rédactions de France Télévisions, France 2, France 3, France Info la télé, France Info le web. Une assemblée générale où chacun exposera ses craintes sur l'avenir de l'information de service public. Car c'est là que le feu a pris il y a 15 jours, avec l'annonce de la suppression de 30 postes l'année prochaine dans ce secteur. Maladroitement, la présidente du groupe a d'abord visé les magazines d'investigation de la 2 avant d'opérer une légère reculade. Trop tard, demain, une motion de défiance à son encontre sera soumise au vote de tous les journalistes. La question sera simple, faites-vous confiance à Delphine Ernot pour préserver la qualité et les moyens de l'information à France Télévisions. Quel que soit le résultat, la patronne de la télé publique, qu'on dit aussi dans le collimateur de l'exécutif en ce moment, n'aura pas le temps de souffler. Mercredi, grève de 24 heures, l'expression là aussi de profondes inquiétudes quant à l'avenir d'un groupe qui doit réaliser 50 millions d'euros d'économies en 2018. Grève aussi pour l'honneur du service public, insistent les syndicats. Les propos attribués au chef de l'État par l'Express la semaine dernière sur un audiovisuel public qui serait la honte de la République ont du mal à passer.
Les sports et les Bleus qui enchaînent aux mondiaux féminins de handball. Elles se sont qualifiées pour les quarts de finale en battant la Hongrie 29-26. Demain, ce sera le Monténégro pour tenter d'accéder au dernier carré. En Ligue 1, Marseille s'accroche. Victoire sur Saint-Etienne 3-0. L'OM reste dans le wagon des poursuivants du PSG à égalité de points avec Lyon et Monaco. Enfin, c'est la fin du suspense pour le PSG justement en Ligue des Champions. Il connaîtra à la mi-journée son adversaire des huitièmes de finale en croisant les doigts pour ne pas tomber sur le Real Madrid. Enfin, ça aussi c'est du sport. L'Uruguay vient de battre le record du plus grand barbecue au monde, Nicolas. J'ose à peine vous donner les chiffres à l'heure du petit déjeuner, mais allons-y, il a fallu une centaine de vaches, 200 personnes pour désosser toute la viande, 16 tonnes de viande crue au total, un peu moins une fois cuite, accompagnée de 4000 kilos de salade, le tout sous les yeux d'un notaire qui a validé le record, évidemment pour le Guinness Book.
Merci Marc Fauvel.